feuille. Qui a besoin d'un stylo? Qui a besoin d'un stylo? Salva, merci. Il y a des stylos derrière. Ok, si on devait mettre en scène Genèse 40, j'espère que vous l'avez lu, j'ai envoyé un texto, un WhatsApp hier. Si on devrait mettre en scène Genèse 40, quel serait le décor? Où sommes-nous dans ce chapitre? Au bord de la mer? Dans les montagnes? Genèse 40. Ah, vous n'avez peut-être pas lu. Nous sommes où? Genèse 40. Pardon? Donc en Égypte, oui, mais plus précisément, parce qu'il y a beaucoup d'endroits en Égypte. Il y a le fleuve, on est au bord du Nil. Nous sommes en prison. Voilà. Et donc, notre leçon aujourd'hui, la leçon 7, Joseph est en prison. Et on a donné comme titre Joseph pris dans l'étau disposé par Dieu. Alors, je vais vous montrer un étau moderne, et puis Selvam va nous dire à quoi ça sert. Voilà. À quoi ça sert, Selvam? Ouais. Voilà, c'est pour les empêcher de bouger surtout. Hein. Si on veut après les scier, enfin on peut faire plein de choses. Mais puisqu'on n'a pas 33 mains, on peut prendre le bout de bois, le mettre là-dedans, bien serré. Et c'est la pression qui empêche le bois, si c'est du bois, à bouger. Et c'est une des illustrations et même un des mots que la Bible utilise pour l'adversité. C'est un mot qui veut dire à son origine pression. Et si je suis sûr, vous avez senti aussi comme ça. On sent la pression qui monte, on dit. On se sent serré entre, qu'est-ce qu'on dit, le marteau et l'éclume, c'est ça? Et l'enclume. L'enclume, oui, merci. Voilà, donc vous avez eu certainement ces expériences. On va considérer ça dans la vie de Joseph. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ces versets dans le psaume 105 qui parle de Joseph, que nous avons ici sur la feuille, donc vous n'avez même pas besoin de chercher. Qui aimerait lire ces versets pour nous? Yvonne, merci.
Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva.
Voilà, donc ses pieds dans les liens, dans les fers, et la parole de l'Éternel l'éprouva. On veut regarder l'exemple exemplaire de Joseph, placé par Dieu dans un cadre difficile et que lui-même était incapable de changer. Alors, si vous regardez Genèse 39, verset 13, vous avez la réaction de la femme de Potiphar lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors. Elle change, comme c'est encore le cas. Hein. Nos émotions changent subitement et souvent d'une extrême à l'autre, comme nous sommes gouvernés par des passions. Des passions qu'on pense être l'amour qui pousse un homme à violer une femme peut changer d'un instant dans un rage où il veut la tuer. Tristement, c'est le cas encore de nos jours. Et on voit la même chose avec elle. Elle a ses passions pour lui, mais lorsqu'elle sait qu'elle est rejetée par lui, ses passions changent en rage et elle invente cette histoire que c'est lui qui est venu vers elle pour la violer. Verset 16 dit, elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi, et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. » Alors, il y a certainement beaucoup de prisons en Égypte. Mais c'est spécifié qu'on l'a mis dans le prison du roi, où les prisonniers du roi étaient enfermés. C'est-à-dire, les prisonniers politiques étaient enfermés. Parce que lui-même avait un regard sur cette prison. Verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Et on ne va pas prendre le temps de lire le chapitre 40, mais cette histoire où il y a deux prisonniers de plus qui sont ajoutés, deux prisonniers du roi, il y a les chansons et le panetier, il dit ici, et ils enfoncèrent leur maître et ils sont mis en prison. Et verset 5, ils ont tous les deux un rêve, chacun a son rêve à lui. Et le lendemain, verset 7, Joseph questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils répondent qu'ils ont eu ce songe. Il faut lire ce chapitre. Je présume que vous connaissez un peu, mais il faut que vous le lisiez vous-même. Et Joseph leur dit, donc au verset 8, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Et puis ils racontent chacun son songe et vous savez qu'un est très bien. Mais l'autre est très mauvais, enfin pour lui. Mais Joseph leur dit la vérité à chacun. Les choses arrivent comme il l'a dit, parce que c'est Dieu qui lui a révélé ces choses. Et si vous regardez juste à la fin du chapitre, verset 21, donc Genèse 40, 21, « Pharaon rétablit le chef des échansons dans sa charge, des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. » Et quels sont les trois derniers mots dans la dernière phrase du chapitre? Il oublia. Est-ce que vous avez senti oublié avant par quelqu'un qui avait une certaine autorité et vous a dit « Oui, oui, je vais vous aider » et puis des mois passent et vous savez qu'il vous a complètement oublié. C'est son cas. Et il est là à cause de son obéissance au Seigneur, rappelons-nous. Il se retrouve dans une situation des plus difficiles et des circonstances difficiles à supporter. Mais ce qui le rend encore plus difficile, si vous voulez, c'est qu'il voit pas la fin. Il ne sait pas combien de temps il va pourrir, si vous voulez, dans cette prison. Son monde, qui est déjà petit dans la maison de Pharaon, devient encore plus limité, plus restreint, car il ne peut pas sortir des murs de cette prison. Et pourtant, il devient évident que c'est un autre maillon dans la chaîne où Dieu va l'amener jusqu'à connaître Pharaon. Il doit entrer en contact avec Pharaon. Nous, on le sait, parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Mais qui aurait imaginé qu'il va entrer en contact avec le pharaon en passant par la prison des prisonniers politiques de Pharaon? Normalement, ce n'est pas la porte d'entrée. Hein. Si on veut se présenter à l'Élysée, on ne passe pas par la prison, normalement. Et Mais on voit la, nous, on voit la main de Dieu, mais on veut se mettre dans sa peau à l'occasion, là. Et il ne voyait pas la fin. Il n'y avait que la foi qui pouvait le préserver de la déprime. Et nous voyons sa foi à l'œuvre. L'Éternel, comme nous avons lu dans le psaume 105, la parole de l'Éternel l'éprouva, et l'éprouva surtout en prison, dans cette situation difficile. Sa foi était mise à l'épreuve parce qu'il avait loin derrière lui la promesse de Dieu qu'il allait régner. Rappelez les rêves que Dieu lui a donnés. Ce n'est pas des rêves qu'il a inventés, c'est des rêves que Dieu lui a donnés. Mais devant lui, il semble, aucune sortie de cette prison. Alors, je crois que ce serait utile de nous rappeler les premiers lecteurs de ce récit. Qui écrit ce récit de Joseph? C'est Moïse, n'est-ce pas? Et il écrit à des gens qui errent dans le désert, et ils arrivent à plusieurs reprises dans des endroits où il semble qu'il n'y a plus de ressources, hein, il n'y a plus de pain, où il n'y a plus de l'eau, et ils tournent en rond, ils semblent dans le désert. Les capacités étaient épuisées ou limitées souvent, et dans leur soif, dans leur faim, leur danger extrême, ils n'avaient que Dieu, ils n'avaient que Jéhovah ou Yahweh sur qui s'appuyer. Et l'extrémité de leur situation mettait à l'épreuve leur croyance dans les paroles de Dieu qui leur ferait en fait entrer dans la terre promise. Et vous savez qu'eux, ils ont souvent échoué. Hein, quand les choses sont devenues difficiles, ils commencent à se plaindre, on préfère retourner en Égypte, etc. Mais là, ils ont devant eux un exemple de quelqu'un qui, dans des situations difficiles, une après l'autre, qui s'enchaîne. Que déjà, il était esclave, et là, maintenant, il devient prisonnier. Il reste confiant et il sert le Seigneur là où il se trouve. Quel bel exemple pour eux et quel aussi bel exemple pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer dans la vie de Joseph? Là, vous avez le numéro 1 ici. Joseph était confiant et le trou là que... Mais regardez les versets 30, avant de vous donner ce qui va dans le trou, regardez le texte là qui est marqué, 39, 21, 23. 21, l'Éternel fut avec Joseph, vous voyez ça? Puis regardez à la fin du verset 23, l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. On voyait que Dieu était quoi? Avec lui. Donc, Joseph était confiant dans la présence de Dieu. C'est ce que vous pouvez mettre là, dans ce trou. Il était confiant dans le fait de la présence de Dieu, que Dieu était avec lui. Et vous avez la lettre A juste en dessous. En dépit du contraste entre le lieu où il était, la maison de Potiphar, et celui où se trouvait actuellement, là, donc là, la prison, qui était encore pire. Ça va de mal en pis. Et en dépit de ça, il est confiant que Dieu est quand même avec lui. La lettre B, et en dépit du lieu où il se trouvait et celui où il croyait que Dieu le conduirait. Hein, la difficulté de la situation pèse lourdement sur lui parce qu'il sait que Dieu a quelque chose de prévu pour lui. Et les circonstances agréables semblent parfois incompatibles, même pour nous, à ce qu'on pense Dieu veut pour nous. Et c'est là où la réaction, souvent, même des enfants de Dieu, c'est de commencer à tenter de manipuler les choses, n'est-ce pas? On a peur que si on ne fait pas quelque chose, ce qu'on désire ne va pas arriver. Je pense à des circonstances dans ma vie où je me suis dit, mais voilà, il faut que je fasse quand même ceci ou cela. Et je commence à manipuler les choses pour pouvoir avoir un certain résultat. On est tenté parfois de même mentir, parfois de tricher, Parfois, de faire des choses que nous savons est contre la volonté de Dieu, mais on se dit, mais je suis obligé, je dois le faire. Et là, nous voyons que non, il savait que Dieu était avec lui. Joseph est le premier dans les Écritures à être incarcéré pour sa justice. Et Dieu va avec lui en prison. Il va avec lui en prison. Une seule fois avant, dans l'histoire, ce point a été souligné d'une façon si poignante, que l'Éternel était avec lui. Vous vous rappelez quand c'était ? Quand est-ce qu'on a lu plusieurs fois de suite que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel lui faisait réussir ? C'est quand ? Voilà, c'est lorsqu'il est dans la maison, comme esclave, dans la maison de Potiphar. Donc on voit que c'est dans les... qui était pour lui un moment de crise quand même. Il est enlevé de sa patrie, amené très loin de lui, il devient esclave. Et là, c'est dans ces moments de crise que la présence du Seigneur est devenue la plus évidente, même si au début, il semblait que ce soit tout le contraire. Et souvent, c'est pour nous aussi, des moments de crise, de la santé, des relations, etc., que... on se rapproche en fait du Seigneur et on reçoit le confort de sa présence avec nous. Est-ce que vous pouvez regarder le premier verset de Genèse 39 ? On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, donc officier de Pharaon, chef des gardes. Vous voyez ça ? Et le chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Ok, regardez le chapitre 40, maintenant et le verset 3. Et il les fit mettre dans la prison du... quoi ? Du chef des gardes. Dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Donc, quand Dieu a envoyé Joseph à Potiphar, il sait que Joseph... va le mettre dans la prison qu'il gère lui-même, et que ces deux hommes, les chansons, panetiers du roi, vont être mis dans la même prison, au même endroit. Nous, vous voyez la main de Dieu dans tout cela ? Même, il arrive au marché, c'est Potiphar qui est là ce jour-là, il achète. Mais Dieu contrôle les détails. De sa perspective, il devient esclave, il devient prisonnier. Mais du point de vue de Dieu, non, Potiphar, c'est le chef des gardes. On va mettre les chansons du roi, qui va humilier pour un temps, et puis exalter encore de nouveau. Et on va mettre Joseph au bon moment, au bon endroit, dans une situation où lui pourra faire maintenant contact avec Pharaon. C'est impossible d'inventer ces choses. C'est tellement beau. On voit la main de Dieu, mais Joseph l'a vécu comme esclave et comme prisonnier. Il ne voyait pas la main de Dieu jusqu'à après le fait. Mais on voit l'indice de la présence de Dieu et la faveur qu'il trouve auprès du gardien du prison. Donc le gardien n'était pas Potiphar, c'est clair, c'est une troisième personne qui aurait été sous les ordres de Potiphar, qui était lui-même, on l'appelle capitaine de la garde. Ça, c'est Potiphar. Mais le gardien de la prison, probablement un homme d'un caractère rude et violent, juste par la nature de son poste. Mais Dieu lui dispose à être favorable envers Joseph. Et donc, Joseph commence à voir la main de Dieu dans tout cela. Donc, on arrive à numéro 2, là. Joseph essayait de suivre le dessein de Dieu. D-E-2-S-E-I-N. Le dessein de Dieu pour lui. Ça, c'est une deuxième réponse qui nous est donnée dans le récit et qui est tracée par la main de Moïse qui écrit tout cela. Il inclut soigneusement ces détails pour nous montrer que Dieu contrôlait. Donc, j'ai dit 39-20, Joseph est jeté dans la place où étaient mis les prisonniers du roi, où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Et puis, 40, verset 3, les prisonniers du roi furent jetés à l'endroit où Joseph était lié. Ça le dit dans les deux sens. Joseph est mis où sont les prisonniers du roi, mais après, eux, ils sont mis là où est Joseph. C'est comme si Moïse va attirer votre attention. Attention, ils vont se rencontrer maintenant. Joseph est là où vont les prisonniers du roi, et les prisonniers du roi, maintenant, ils vont là où est Joseph. Nous invite à voir la main de Dieu et Joseph qui est content de suivre le dessein de Dieu pour sa vie. La lettre A, en bas de la première page. Pendant l'adversité, reconnaissez que Dieu vous a placé à un certain endroit pour un but futur. Reconnaissez, c'est ce qui va dans le trou. Il faut reconnaître. Le but divin, c'est écrit en dessous, pour lequel Joseph était dans la maison de Potiphar, c'était pour qu'il soit placé dans la prison tenue par Potiphar. Potiphar n'est qu'un maillon dans la chaîne. Et même il se sert de la femme de Potiphar pour avancer maintenant les choses. Il doit entrer en contact avec le roi. Et la prison était l'endroit pour lequel Dieu allait les mettre en contact inattendu avec des hauts fonctionnaires du roi. Des gens qui avaient un contact direct avec le roi. Et vous savez, même encore aujourd'hui, on parle d'empoisonnement des hommes politiques, n'est-ce pas, avec ce qui est arrivé à un russe. Je vous assure, pour un roi, c'était un danger constant. Parce que c'était la mort aveugle, on voit pas. Et donc, les chansons, le panetier, devaient être des hommes d'une entière confiance pour le roi. Et souvent, devant le roi, il y a même cette image où il pressait les raisins devant le roi. C'est comme si le roi veut voir même le processus pour s'assurer qu'il n'y a rien de caché là-dedans. Mais ça devait être des gens extrêmement fiables pour le roi, et donc souvent des hommes très proches du roi, parce que pour avoir confiance avec quelqu'un, il faut le connaître. Et souvent, dans les histoires, on lit qu'ils buvaient même la coupe avant le roi, pour démontrer que voilà, il n'y avait rien de mauvais, ou on mangeait devant le roi avant de donner au roi. Et donc ce sont des hommes très proches au roi. Il a dû avoir un complot, ou au moins Pharaon a eu une suspicion d'un complot, et il met en cause ces deux hommes, et il les fait mettre en prison. Et peut-être, nous on ne voit pas l'évolution de la chose du côté de Pharaon, mais peut-être il y a eu des indices ou des témoins qui sont venus pour dire en fait, non, c'était le panetier, mais ce n'était pas les chansons. Et on ne sait pas comment Dieu a agi dans sa vie, mais il arrive son anniversaire, il dit, ah non, le panetier, on va lui en couper la tête, mais les chansons, je peux avoir confiance en lui, je vais le rétablir. Et là, c'est quelqu'un maintenant qui connaît Joseph, qui est de nouveau devant le roi. Donc, il faut reconnaître que Dieu nous place parfois dans des choses où nous, on ne voit pas la fin. Pour nous, si je veux ce diplôme, si je veux ce travail, il faut ce diplôme. Si je veux ce diplôme, il faut cette école. Mais Dieu, non, il dit, non, peut-être il faut cette école-là, pas ce diplôme ici, parce que moi, j'ai autre chose pour vous. Il faut reconnaître et accepter que c'est Dieu qui écrit nos histoires. Ah. Donc, on voit les frères qui ont vendu Joseph, une dame qui va mentir contre lui, un maître qui se fâche contre lui, et tout cela, il doit le vivre en temps réel, mais c'est la main de Dieu sur lui. Si vous tournez la page, vous voyez numéro 2 tout en haut, le but divin derrière toutes ces adversités était d'amener Joseph au lieu où il pourrait être élevé. Et puis la lettre B, pendant l'adversité, confiez-vous sans cesse à l'Éternel. C'est ce qui va dans le trou à la lettre B. Confiez-vous sans cesse à l'Éternel. Qui peut nous citer Proverbes 3, 5 et 6? On dit ensemble. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Dans ces versets, je vous encourage vivement à mémoriser. Donc, on voit Joseph, en dépit de ses circonstances, moins que souhaitables, il ne permet pas que sa vision de Dieu soit minimisée. Il ne va pas se fâcher contre Dieu. On le voit dans le verset 8 du chapitre 40. Lorsque ces deux personnes qu'il rencontre en prison, ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» On voit une confiance absolue en Dieu, n'est-ce pas? Mais on aurait pu dire, mais Joseph, attends, toi tu as eu un rêve, tu allais régner sur tes frères, et tu penses que Dieu t'a donné ça, et là tu t'es trouvé comme esclave, et puis comme prisonnier, tu es encore prisonnier, et tu penses que Dieu, tu fais toujours confiance à Dieu. J'imagine que vous avez rencontré des gens comme ça. Moi, je ne fais plus confiance à Dieu. Hein? J'ai des gens qui parlent comme ça. C'est comme j'ai essayé Dieu, ça n'a pas marché. Je dois faire ma propre voie, mon propre chemin. Donc, parler de Dieu est une habitude chez Joseph. Son discours sur Dieu, considéré dans son ensemble, démontre une connaissance étendue du caractère de Dieu qui est quand même remarquable. Il a le nom de Dieu continuellement sur ses lèvres. Il pense, il parle de Dieu aussi naturellement qu'il respire. Et dans ces deux, ils sont troublés, mais il dit, c'est à Dieu qui appartiennent ces choses. Mais il est lui-même prisonnier. Il n'a pas encore vu la réalisation de son propre rêve. Et il fait toujours confiance à Dieu. Ce sont de courtes phrases, mais je crois que ça révèle toute sa vie intérieure. Son cœur était attiré vers Dieu en tant que jeune homme. À 17 ans, il a quitté la maison. L'Éternel était avec lui. Il a vécu toutes ses difficultés. Et nous voyons une foi qui est en train, en fait, de grandir en Dieu. Quelle beauté de voir quand les difficultés arrivent, notre foi est en train de croître et pas diminuer. Et puis la lettre C, pendant l'adversité, souvenez-vous que l'agenda de Dieu peut être différent du vôtre. Souvenez-vous. Nous, on a notre propre agenda. Et selon notre timing, Dieu est très souvent en retard, n'est-ce pas? Très souvent en retard. Rappelez-vous que Moïse a 80 ans quand il débarque sur sa plus grande mission de sa vie. Et Joseph va avoir 30 ans. C'est beaucoup moins, mais jusqu'à 30 ans, il va être soit esclave, depuis 17 ans jusqu'à 30 ans, il sera soit esclave, soit prisonnier. Et c'est ça la grande école d'Égypte. Il est dans la grande école d'Égypte. Il va passer le concours et il va aller jusqu'au sommet. Parce que Dieu, il nous forme à sa façon. Et nous devons accepter que c'est Dieu qui le fait, que c'est lui qui décide même du timing. Alors, numéro un, je crois que c'est important, cela ne signifie pas nécessairement une réponse totalement... Qu'est-ce que vous pensez dans ce trou là? On veut clarifier. Le mot est passive. Cela ne signifie pas nécessairement une réponse totalement passive de ma part. C'est-à-dire, je m'assois, j'attends. Il y a des jeunes comme ça aussi. Hein. Ah, tu as un travail? Non, j'attends. Ah, d'accord. Ben, tu fais quoi? Ben, je ne sais pas, voilà. Pas grand-chose. J'attends que Dieu me donne un travail. Ah, d'accord. Ouais. Et tu vas faire des études? Non, j'attends que Dieu me donne un diplôme. Voilà. Ça, c'est la paresse. Ça, c'est la paresse. Je me rappelle, juste après mon mariage, je cherchais un travail. Et René aussi, d'ailleurs. Et quelqu'un m'a dit, écoute, Dieu nous a appelés à travailler. Tu peux travailler. Tu te lèves chaque matin. Tu te dis, le travail que Dieu a pour moi aujourd'hui, c'est de chercher un travail. Voilà. Et après, tu remets à lui les résultats. Mais toi, tu travailles. Tu te lèves tôt le matin. Tu t'habilles, tu sors, tu fais ton travail. Et tu peux offrir ça à la fin de la journée. Tu peux dire, Seigneur, j'ai mis tant d'heures aujourd'hui à travailler. C'était pour chercher du travail, c'était pour étudier quelque chose. Mais je ne veux pas juste flâner. Flâner n'est pas bon. Mais nous voyons qu'il ne reste pas passif. Regardez le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit à les chansons? Chapitre 40, verset 14. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Vous voyez, il fait une simple demande. Il fait une demande à cet homme, qui va être bientôt un homme très élevé dans le gouvernement. Et Joseph voit clairement sa rencontre avec le chef des échansons, et sa restauration à venir, hein, son premier poste, comme un moyen par lequel Dieu pourrait accomplir sa parole à Joseph et le sortir de la prison. Et donc il va faire cet appel, si vous voulez, de penser à lui. Et il y a une place pour ça. Il y a une place pour faire appel à nos parents, ou à l'école, ou au chef, etc. Numéro 2, là, cela va exiger quand même une acceptation, et je veux le contraster avec passive, donc active. Une acceptation active de ma part de savoir que Dieu œuvre différemment que je croyais. Parce que le verset 23 nous dit que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, et il l'oublia. Donc c'est encore... Joseph se disait, mais maintenant c'est peut-être ça, Dieu va me faire sortir. Et encore une déception. Encore. On se dit, mais là c'est un de trop. Et si vous regardez chapitre 41, verset 9, alors le chef des échansons prit la parole en parlant à Pharaon et dit, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. C'est Dieu qui ramène ça à l'esprit, finalement, 2 ans plus tard. Il a 28 ans maintenant, et encore, il va rester encore 2 ans en prison parce que on a simplement oublié. On se dit, mais comment est-ce qu'il a pu oublier Joseph? Ben, là encore, imaginez qu'il aurait pensé à lui le jour après, il faut le libérer. On libère Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va rentrer voir son père. Il ne va pas rester à trouver un job en Égypte. Non, non, ce n'est pas encore le temps qu'il sort. Il doit rester confiné encore 2 ans. Et c'est quand Pharaon a le songe que Dieu ramène à l'esprit ce qui s'est passé. Et là, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Et il est élevé. C'est la belle main de Dieu qui agit dans toutes ces choses. Et puis troisièmement, rechercher les preuves, hein, qui indique que Dieu est en train de vous raffiner. Raffiner. R-A-2-F-I-N-E-R. Rien ne sort d'un étau exactement comme il est entré. Vous voyez sur le mur. Soit il ressort avec une cicatrice due à la pression de l'étau, soit il ressort après avoir été ajusté pour plus d'utilité. Et c'est ça le désir, quand Dieu nous met dans cet étau, où il y a la pression, c'est pour pouvoir après nous ajuster pour plus d'utilité, pour que nous puissions ressortir plus fort, plus comme Christ qu'avant. Joseph, la lettre A, démontre une habileté inhabituelle à détecter la main de Dieu. Une habileté, H-A-B-I-L-E-T, E, accent aigu, il démontre une habileté. C'est-à-dire l'intensité d'une épreuve l'a poussé à regarder encore plus pour voir la main de Dieu dans sa vie. Pas de se détourner de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire aussi. On cherche où est la main de Dieu dans ces choses. La lettre B, Joseph grandit dans sa soumission à Dieu. Soumission pour la lettre B. Si Joseph était soumis à Dieu avant d'être emprisonné, il est encore plus parce que les circonstances l'exigent, les chaînes l'exigent. Le séjour prolongé l'exige, sa demande oubliée l'exige. Toutefois, c'est encore des rappels qu'il doit se soumettre de nouveau. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on grandit dans notre soumission à Dieu. On n'entend jamais Joseph se plaindre de manière audible. Chaque déception successive dans le processus lui donne une nouvelle occasion d'accroître sa soumission à Dieu et dire « Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne. » Et la lettre C, Joseph démontre de la sensibilité envers ceux qui sont dans le besoin en dépit de ses propres épreuves. De la sensibilité. Ça, c'est au verset 6, hein, où il voit ces deux hommes le matin, et voici, ils étaient tristes. Comment est-ce qu'il a vu qu'ils étaient tristes? Oui, et il y avait certainement un intérêt quand même. Il dit, moi, je fais mon job, tant pis pour vous. Et moi, j'ai raison. Tu penses que toi, tu as raison d'être triste? Tu ne connais pas mon histoire, hein? Laisse-moi te raconter mon histoire à moi. Arrête de pleurer comme un bébé. Il aurait pu avoir cette attitude. Et vous savez, il n'y aurait pas eu la suite. La suite de l'histoire, Joseph est élevé parce qu'il voit, ah, il y a des gens qui ne vont pas bien. D'autres prisonniers comme moi, mais ils ne vont pas bien. Est-ce que je peux leur dire quelque chose? Est-ce que je peux montrer quand même un intérêt? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux... Voilà, il est intéressé, il veut les aider. Et c'est là aussi on voit une certaine croissance. À 17 ans, vous vous rappelez, il a raconté son rêve à ses frères et même à son père, qu'il allait régner sur eux. C'était vrai, hein, mais il ne leur pose aucune question concernant leurs sentiments là-dessus. C'est un adolescent de 17 ans. Et on ne sait pas exactement, mais on peut imaginer que, voilà, c'est vrai, hein, je vais régner sur vous, il faut l'accepter. Et là, nous voyons, à 28 ans, il s'intéresse à l'état émotionnel d'un Égyptien. Et nous voyons son caractère en train d'être formé. Parce que Dieu, il faut plus qu'il fasse seulement qu'il soit mis à une position très haute à côté de Pharaon, il faut que son caractère soit formé. Et puis, la lettre D, Joseph démontre de l'intégrité. L'intégrité. I-N-T-E. G-R-I-T-E, l'intégrité, l'honnêteté. Et ça, les versets 16 et puis 41, verset 12. Bon, je vous lis 41, verset 12. C'est les chansons qui parlent à Pharaon. Il dit, il y avait là avec nous un jeune homme esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Lorsque Joseph est confronté, Dieu lui donne l'explication des deux rêves. Il ne manque pas de dire la vérité aux deux. Quoique ça n'a pas dû être très facile pour le dire au panetier que dans 3 jours, on va te couper la tête. Il aurait pu cacher un peu la vérité pour que ça soit moins brusque, moins rude. Et je ne pense pas qu'il ait dit sans pitié, mais il lui dit quand même la vérité. Et vous savez, plus tard, on voit dans le témoignage de les chansons que c'est parce qu'il a dit la vérité que Pharaon va lui faire confiance plus tard. Il a dit la vérité dans une situation difficile. Et les chansons disent, c'est arrivé exactement comme il l'a dit. S'il aurait changé un peu pour les chansons, on aurait dit, mais pour moi, il avait raison, mais pas pour l'autre. Vous voyez? Et souvent, mes amis, souvent, Dieu a préparé des tests où on va vous demander de mentir. Et vous allez être face à des choses, si je dis la vérité, tout est ruiné, il faut que je mente. Hein, j'ai eu des personnes qui assistaient même ici, et m'a dit cela, mais il fallait que je mente. Mais vous ne savez pas qu'il faut dire la vérité, c'est en disant la vérité que Dieu va vous garder et vous protéger. Il ne faut jamais mentir pour faire avancer ses propres desseins ou pour couvrir quelque chose pour que l'autre ne sent pas mal. Surtout dans les relations, souvent on préfère ne pas... Non, mais il faut... La Bible dit, il ne faut pas dire la vérité avec amour. Amour. La vérité n'exclut jamais l'amour, mais l'amour n'exclut jamais la vérité. Donc vous voyez, cette grande école, c'était la prison, mais Dieu l'a formé pour qu'il soit prêt pour être élevé. Nous allons nous arrêter là, et on peut se saluer.